aimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. Depuis presque un an, le Hirak avait disparu des rues d'Algérie, interdit de manifestation pour cause de pandémie de coronavirus. Un silence forcé et une aubaine pour le pouvoir, désemparé par l'ampleur de ce mouvement inédit de contestation, apparu le 22 février 2019. Un mouvement populaire et pacifique qui obtiendra 2 mois plus tard, en avril, le départ d'Abdelaziz Bouteflika, candidat à un 5e mandat, un mouvement qui ensuite, chaque vendredi, ne cessera de défiler pour réclamer la fin de ce qu'on appelle en Algérie le système. Lundi, jour anniversaire de sa création, le Hirak a prouvé qu'il était toujours là. Des milliers d'Algériens ont investi la rue dans les grandes villes du pays pour réclamer à nouveau le changement. Et hier, mardi, ce sont les étudiants qui ont manifesté à leur tour à Alger. Alors le mouvement peut-il faire plier le pouvoir ? Que penser de la récente libération de prisonniers politiques et des législatives anticipées annoncées par le président Tebboune? Geste d'apaisement ou rideau de fumée, quel avenir pour le Hirak? Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mourad, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui a changé en Algérie depuis la naissance du Hirak il y a 2 ans, d'après vous? Mourad?
Allô?
Oui, Mourad, est-ce que vous avez entendu ma question?
Non, est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît?
D'accord. Alors, qu'est-ce qui a, selon vous, changé en Algérie depuis la naissance du Hirak il y a 2 ans?
Le Covid.
Le Covid,
c'est tout,
oui.
Ce qui a changé.
Qui l'a réduit au silence pendant presque un an.
Du Covid. Sinon, la situation est exactement la même pour nous, c'est-à-dire que le régime est toujours le même. Ses pratiques n'ont pas changé. Elles ont été un peu plus, quand même, accentué sur de la répression, et donc comme vous avez pu le constater, ben la rue a décidé de revenir à charge après un petit, on va dire, reflux de l'épidémie.
Alors, comment interprétez-vous les annonces la semaine dernière du président Tebboune, la libération des détenus d'opinion, des législatives anticipées dans les 6 mois pour, a-t-il dit, ouvrir ses portes à la jeunesse, et puis le remaniement ministériel et la dissolution donc de l'Assemblée nationale?
Ben, on peut l'interpréter de plusieurs façons, vu de la base, hein, du peuple. C'est ou bien une panique parce qu'il ne il s'attendait pas à ce qu'il y ait un retour aussi fort. On peut le considérer comme des tentatives malheureuses parce que c'est-à-dire que le peuple ne demande pas un remaniement ministériel ou quoi que ce soit au niveau des pseudo-institutions qui existent. Il demande un changement profond et il ne le demande pas aux gens qui sont en place pour prendre des décisions politiques. Il leur demande de juste laisser quitter le pouvoir pour qu'on puisse construire une Algérie basée sur un état de droit, sur des institutions civiles fortes, et que l'armée retrouve sa place dans les casernes pour accomplir sa mission au profit de l'État et du peuple.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que des figures émergent du mouvement pour devenir les interlocuteurs du pouvoir? Est-ce qu'il ne faudrait pas des porte-parole au Hirak?
Alors, le Hirak porte lui-même sa parole. Dans l'état actuel des choses, ça serait une grande erreur que quelqu'un se déclare comme étant porte-parole, ou que d'ailleurs le peuple ne s'appuie sur personne pour parler à sa place. Par contre, il a déjà ses figures. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que tant que vous avez un pouvoir répressif qui ne répond à aucune loi, qui lui-même ne respecte pas les propres lois et qui met en place, vous ne pouvez pas mettre exposé des gens. Vous avez vu des journalistes qui n'ont fait que couvrir au fait des manifestations, se retrouver emprisonnés sans aucun motif. Hier, 2 étudiants ont été, l'un a été kidnappé carrément, on ne sait pas où est-ce qu'il est, l'autre a été donc emmené en poste. Rachid Nekas, qui venait de d'être libéré, a été violemment, kidnappé par la police en pleine manifestation. On ne peut pas aujourd'hui mettre en face d'un pouvoir qui n'est pas reconnu des gens pour lui parler. Les gens ne reconnaissent pas ce pouvoir. Ils leur disent, ça ne marche pas comme ça. Vous devez d'abord nous laisser construire un état de droit. Et puis après, si vous voulez revenir dans cet état de droit pour parler, pour trouver votre place, ben vous revenez. Mais vous revenez pour faire ou de la politique dans un cadre légal, ou bien vous démissionnez de vos postes militaires pour revenir dans du civil et faire de la politique aussi. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas sortir et discuter avec des gens qu'on ne reconnaît pas comme étant légitimes.
Merci beaucoup Mourad de nous avoir appelé. On va partir au standard où nous attend Leïla, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai bien écouté, merci de me donner la parole, j'ai bien écouté l'intervenant précédent.
Mourad,
et
oui.
Dans beaucoup de... Bon, je suis d'accord avec lui. Dans beaucoup de domaines, j'ai moi-même défilé pendant une année tous les vendredis et dans ma ville. Mais je n'habite pas à Alger, j'habite plus loin,
à Gigel.
Et je dois dire très sincèrement que nous avons défilé tous les vendredis très, très pacifiquement. On n'a jamais vu un policier dans ma ville, hein, je ne parle pas d'Alger, on n'a jamais vu ni un policier ni de force de l'ordre essayer de nous empêcher de passer. On ne les voyait pas. Et au contraire, il y avait un slogan qui marchait, qui disait « Le peuple et l'armée sont frères ». Et en plus, il y avait une ambiance assez extraordinaire où l'ambiance Irak se propageait, se continuait au-delà des manifestations. Il y avait par exemple des peintures de grandes fresques murales, il y avait des campagnes d'assainissement, de ramassage des déchets, etc. Et vraiment une très très bonne ambiance pendant une année, tout le temps 2019. Le Covid est venu arrêter tout ça, mais je dois dire qu'à la fin des manifestations, à la fin de l'année 2019.
C'est-à-dire au mois de mars 2019 à peu près, hein.
À la fin de 2019, avant les élections.
Ah, 2020, ok.
Il y avait des changements. Il y avait des petits groupes, les slogans changeaient. C'était des petits groupes, je ne dis pas qu'ils étaient nombreux, mais de barbus. Et puis, en plus, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est que certains ont lancé sur des fresques qui étaient vraiment belles des seaux de peinture boueuse. Et ça m'a déjà choquée. Il y avait ce mouvement-là de crispation. Ensuite est venu le Covid.
Et aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que vous allez redéfiler avec le Hirak ou pas ?
Alors, moi, j'ai hésité parce que je n'ai pas envie de défiler avec ça, avec ces gens-là. J'ai hésité pour la dernière fois. Mais ils étaient très nombreux, hein, très nombreux, et je n'ai pas revu ces groupes. Mais je n'ai pas défilé. Et j'ai voulu voir d'abord. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que contrairement à ce que dit
Mourad,
l'intervenant prédécesseur, je termine rapidement, c'est que ces élections, dès qu'il est revenu de sa maladie, le président Tebboune a dissous l'Assemblée le 18 février et organisé des élections qui seraient prévues vers le mois de septembre. Si le Hirak, s'il n'y a pas de députés jeunes, actifs, compétents, hirakistes qui se présentent aux élections pour les législatives, on aura exactement la même assemblée qu'on avait, qui vient d'être dissoute cette année.
Voilà, c'est votre point de désaccord avec Mourad. Hein. Vous voudriez que le Hirak se transforme en parti politique pour avoir des candidats aux prochaines élections législatives.
Parti politique, ils peuvent se présenter indépendamment du moment que ce sont des gens jeunes, compétents, jeunes ou moins jeunes, je veux dire, mais enfin, des gens qui ont un certain fond de patriotisme et pas seulement des intérêts personnels ou de smala ou de... Voilà.
Parce que pour vous, donc, la politique de la chaise vide, le boycott des élections, ça ne sert à rien.
Ça nous a conduit à la catastrophe en 1991, où un parti qui était relativement minoritaire a pris la majorité parce qu'il y avait un boycott des élections.
Le fils. Aux
législatives, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui m'inquiète. Voilà. Ils sont minoritaires, on n'a pas envie qu'ils reviennent, ils ne reviendront pas, mais ils sont influençants. Je rappelle que le parti islamiste de Benguerina a été deuxième, qui était candidat aux élections présidentielles, était deuxième.
Donc pour vous, les islamistes sont toujours en embuscade ?
il y a toujours des pontes, et puis il y a une administration extrêmement pesante qui date de Bouteflika. Tous les hauts fonctionnaires, les grands commis d'État, tous ces gens-là qui sont en Algérie maintenant, ils datent du temps de Bouteflika. Tebboune n'a pas eu le temps de tout bajarder. Vous comprenez? Et ils sont là, et c'est contre eux que Tebboune doit agir. Donc je ne mets pas entièrement la faute sur lui. Il y a le poids énorme de 3 décennies d'une administration extrêmement pesante, grenouillante, avec des jalousies, des petits complots, et surtout des potentats qui utilisent leur pouvoir pour freiner toute initiative qui pourrait les mettre en danger, si vous voulez.
Ouais. Merci beaucoup, Leïla, pour votre intervention. On va maintenant aller à Nouakchott, où nous attend Mokhtar. Bonjour, Mokhtar.
Bonjour.
Alors, donc, vous êtes... Oui ?
Oui, je vous écoute.
Alors, quel regard portez-vous, vous, de Mauritanie, sur l'avenir du Hirak en Algérie ?
Ben, je me souscris à pratiquement tout ce qui a été dit par mon prédécesseur. Je dirais tout simplement que moi, je vois qu'il faut penser en profondeur. C'est le renouvellement, bien sûr, de la classe politique et donner, bien sûr, la chance, comme ils l'ont tout dit, des jeunes cadres intellectuels algériens. Je pense que ce système est un système, si vous voulez, autoritaire. C'est un système paramilitaire, je dirais même peut-être militaire, qui, depuis une décennie, bien sûr, si vous voulez, gère d'une manière très stricte toutes les structures, si vous voulez, que ça soit même démocratique.
Donc il faut un rajeunissement de la classe politique, et ça passe peut-être par l'inclusion de membres, de figures du Hirak. C'est ce que
absolument,
vous voulez dire ?
C'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'il faudrait penser, bien sûr, au renouvellement de la classe politique qui passe tout d'abord par cette contestation. Elle est d'abord populaire. Donc forcément, il faut intégrer les jeunes cadres intellectuels du Hirak pour un changement et pour un apaisement, si vous voulez, public. Pour un apaisement, si vous voulez, général.
Merci.
Je dirais également...
Oui, allez-y, Mokhtar, brièvement.
Je dirais encore également que tant qu'il n'y a pas une instauration donc, de la justice, de l'équité, de l'égalité, il y aura toujours une continuité, bien sûr, de contestation. Donc il faut forcément qu'il y ait une stabilité et une justice égalitaire, et il faut une équité. Tant qu'il n'y a pas une équité et une justice, si vous voulez, je pense qu'il y aura toujours ces problèmes.
Merci
aussi
beaucoup.
Bien en Algérie que dans les autres pays.
Merci beaucoup, Mokhtar, pour votre appel. Bonne journée à Nouakchott. On part pour N'Djamena, où nous attend Raïssa. Bonjour, Raïssa.
Bonjour Chantal.
Comment avez-vous accueilli la libération des prisonniers d'opinion, donc décidée par le président Abdelmadjid Tebboune? Est-ce que pour vous c'est un geste d'ouverture, ou est-ce que c'est un coup de communication?
Dans un premier temps, c'était un soulagement, parce que ces personnes n'avaient pas leur place en prison. C'était des prisonniers d'opinion. L'Algérie est un pays qui se dit démocratique. Rachid Mekad, Khaled Draraini et tous leurs
collègues
ont été arrêtés, les hiérarchistes qui ont été arrêtés, ils ne devaient pas être en prison. Et moi, je pense que c'est plutôt un rideau de fumée, une opération de communication, parce qu'on sait que le président Tebboune, il revient de l'Europe où il est parti se soigner. Il y a peut-être une pression internationale. Et c'est pour donner des gages à la communauté internationale qui a préféré libérer ces prisonniers d'opinion.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, des prochaines législatives anticipées?
Comme le Parlement a été dissous, j'attends un changement à l'Assemblée. il faut qu'on intègre ces jeunes irakistes qui en ont assez du système qui est paramilitaire, presque militaire. En Algérie, c'est l'un des rares pays du Maghreb où il n'y a pas eu le printemps arabe comme en Tunisie, en Égypte. Tous ces jeunes algériens, ils ont le désir de changement. Donc, il va falloir les intégrer à l'Assemblée et leur laisser carte libre pour qu'ils puissent être élus députés et venir défendre les idéaux pour lesquels ils se battent.
Merci beaucoup, Raïssa. On va prendre maintenant David, qui nous appelle de Béthune. Bonjour, David.
Bonjour, Chantal.
D'après vous, est-ce que le Hirak doit changer de stratégie et ne plus seulement défiler chaque vendredi dans la rue ? Est-ce que ça va pas suffire pour faire bouger les choses, pour faire plier le pouvoir ?
Non, Chantal, vous savez, deux ans, quel est le bilan ? C'est vrai, on a obtenu le départ de l'ancien président Bouteflika, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de stratégie. Parce que moi, je crains que l'absence d'une structure à la tête de ce mouvement, que le mouvement n'ait pas encadré une direction pour orienter des actions, avoir des objectifs précis, je crains que la révolution soit avortée. Pourquoi ? Parce que, on va sortir, marcher, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Et demander le départ du système. Il s'avère que le système, ce sont des communes de l'État, c'est le FLN qui est là, qui dirige depuis l'indépendance, chapeauté par l'armée qui détient le vrai pouvoir en Algérie. Ça, on le sait très bien. Mourad, le premier intervenant, il le sait que aujourd'hui, on peut bien changer des choses de l'intérieur. C'est-à-dire, pourquoi ne pas participer aux législatives, être dans des instances aussi créées, par exemple, ce mouvement peut muter en un parti populaire, parti politique populaire, avec des jeunes qui sont là très compétents en Algérie. C'est pas ce qui manque, les compétences. Mais revenir chaque jour, chaque vendredi, dire que le système doit partir, je pense que cette stratégie est vouée un petit peu à l'échec parce que les deux ans déjà, nous avons, les résultats sont mitigés.
Merci.
Très mitigés. Et donc, moi, je pense qu'il faut encadrer, il faut orienter, avoir une structure des gens à qui le peuple peut adresser. Pourquoi ne pas négocier avec le système dans des instances et en mettant par exemple des jeunes justement pour faire changer la donne.
Merci beaucoup David, je crois qu'on a compris votre point de vue. Je voudrais donner la parole à Nabila qui nous appelle de Tunis. Bonjour Nabila.
Bonjour.
Alors la Tunisie est le seul pays du monde arabe à avoir réussi sa révolution après la chute en 2011 de Ben Ali, même si l'apprentissage de la démocratie est compliqué. Comment analysez-vous ce qui se passe en Algérie et cette naissance du Hirak ? Quel est selon vous l'avenir du Hirak ? Est-ce qu'il a la bonne stratégie défiler dans la rue et demander au pouvoir de partir, demander la refonte des institutions ?
Alors, je vais partir de là où vous êtes arrêté, c'est-à-dire la Tunisie. Si le peuple commence à bouger, quelque chose doit ne pas marcher. Ça, c'est par principe. Donc, le Hirak, quand ses mouvements, ses manifestations ont commencé en 2019, c'était contre un cinquième mandat de Bouteflika, puis contre son projet contesté par l'armée. Alors, le Hirak a réussi jusque-là. Finalement, il a pu changer le président. Et après deux ans, ils ont constaté qu'il ne s'agit pas de personne, mais de tout un système. Exactement ce qui s'est passé en Tunisie.
Rapidement, Nabila, excusez-moi, mais on est pressé par le temps.
Quand on s'est libéré de Ben Ali, le système n'a pas changé tout de suite. Donc, on a continué à manifester, à protester, à contester. C'est la même chose. Aujourd'hui, quand on voit en 2021 ou en 2020 qu'il y a des détenus d'opinion...
Nabila, je suis désolée, je vais être obligée de vous interrompre pour donner la parole